Aujourd'hui, la masterclass de Salman Rushdie avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent cette masterclass France Culture de Salman Rushdie. Nous sommes en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Pour rappel, cette collection d'émissions a pour vocation d'essayer de savoir comment un artiste construit son œuvre au sens de la fabrication, véritablement, de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère l'œuvre comme achevée. Il nous raconte le processus de son élaboration, d'une masterclass à une autre, des questions communes, même si les invités viennent de champs disciplinaires très différents, mais c'est toujours le même mystère que nous essayons d'approcher, le mystère de la création, pour dire les choses un peu de façon grandiloquente, mais c'est bien cela. Aujourd'hui, c'est donc Salman Rushdie qui a accepté de se prêter à cet exercice, qu'il en soit évidemment grandement remercié, et c'est Michel Zostowski qui va être l'interprète de notre conversation. Quelques éléments biographiques, je vais essayer d'être bref, mais une vie riche, celle de Salman Rushdie, pour dire tout d'abord que vous êtes né en 1947 à Bombay, l'année de l'indépendance de l'Inde, que vous partez ensuite étudier à Londres en 1960, pas vraiment les meilleures années de votre vie. C'est là qu'on vous fait bien comprendre que vous êtes un étranger, vous qui pensiez retrouver d'autres camarades. Ça va s'arranger à Cambridge. Les années sont aussi intéressantes au niveau artistique. Vous allez ensuite travailler, Salman Rushdie, quelque temps dans une agence de publicité, puis publier votre premier roman, Grimace, teinté de science-fiction. Et le succès, la célébrité arrive dès le deuxième roman, Les Enfants de Minuit, qui reçoit notamment le Booker Prize. On pourrait dire que ce livre-là, c'est le premier d'une trilogie, Les Enfants de Minuit sur l'Inde, La Honte sur le Pakistan, et Les Versets Sataniques sur l'exil, sur le déracinement de l'Inde vers l'Occident. Pour rappel, 14 février 1989, une fatwa a été émise sur Radio Téhéran par l'ayatollah Khomeini, qui donc réclame votre mise à mort, puisqu'il dénonce ce livre comme blasphématoire. Le 24 septembre 1998, le gouvernement iranien annonce officiellement son renoncement à accomplir la fatwa, mais elle ne peut pas l'annuler, puisque c'est la loi islamique. D'ailleurs, depuis, la prime promise par certains dignitaires iraniens pour votre meurtre augmente régulièrement, et puis en lien avec cette fatwa, de nombreuses personnes sont mortes et on ne l'oublie pas. Au moment où nous enregistrons votre masterclass pour France Culture, ça fait 30 ans quasiment que cette fatwa a été émise, presque la moitié de votre vie, mais votre principale réponse, Salman Rushdie, et on va en parler, c'est d'avoir continué votre travail d'écrivain. Dernier rappel quand même, la reine d'Angleterre vous a anobli en 2007. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir une masterclass de Sir Ahmed Salman Rushdie. Longue présentation, on revient à l'origine, aux origines. Peut-être en premier lieu à votre père et au Panchatantra dont il vous lisait les contes. Dans ces contes d'ailleurs, il arrive que les méchants gagnent à la fin, ce qui n'est pas sans importance. Qu'est-ce qui reste du Panchatantra dans l'écrivain que vous êtes, Salman Rushdie?
I think it's for all of us who come from the East, this storehouse of ancient stories.
Pour tous ceux d'entre nous qui viennent de l'Est, c'est un grenier d'histoire, c'est un don qui nous a été fait.
I mean, there are of course the great religious epics like the Mahabharata and the Ramayana.
Il y a bien sûr le Mahabharata, le Ramayana, les grandes épopées mystiques religieuses, mais aussi les histoires séculaires comme les fables du Panchatantra. Sont des fables animalières.
But one of the ways in which they are different than Western fables.
Mais elles se différencient des fables occidentales.
Is that they are kind of amoral.
C'est qu'elles sont amorales.
And the bad people often win.
Et souvent, ce sont les méchants qui gagnent.
Mais quand vous étiez enfant, ça vous faisait rire ou ça vous faisait peur?
Kind of both at the same time.
Les deux, en même temps.
And of course, for children to be scared
pour les enfants,
and made to laugh simultaneously is what
être
you want
effrayé
most of all.
Et rire en même temps, c'est ce que l'on désire le plus.
Alors ça, vous l'aviez peut-être aussi, Salman Rushdie, avec les films, et avec notamment le cinéma de Bollywood, qui est aussi une source importante de votre inspiration, et puis aussi une affaire de famille. Il y a deux tantes qui étaient actrices, un oncle scénariste. Ça a marqué de quelle façon l'enfant, le jeune homme que vous étiez, ces films-là?
Well, first of all, I should say that in that time, the 50s and 60s,
je dois vous dire d'abord que dans ces années-là, les années 50 et 60, ça ne s'appelait pas Bollywood.
That came much later.
Tout ça est venu bien plus tard.
These were just Bombay movies.
C'était des films de Bombay.
But I think you have to. It's hard to describe the extent to which the city of Bombay is obsessed by the cinema.
Mais il est difficile de décrire la façon dont la ville de Bombay est obsédée par le cinéma.
I mean, it's a, everybody in the city thinks about like almost nothing else.
Tout le monde dans la ville ne pense qu'à ça.
And you know, when you buy the morning newspaper,
et quand vous achetez
like
les quotidiens du matin,
news,
il y a 4 pages d'actualité et 24 pages de racontars sur les films.
And everybody reads all of it.
Et tout le monde lit l'intégralité.
So if you grow up in a town like that, then you are obsessed with the cinema. It's in your blood.
Quand on grandit dans une ville telle que celle-là, c'est dans votre sang. Vous êtes obsédé par le cinéma.
But for me, really, the awakening came when I was at
l'éveil est venu quand j'étais à l'université en Angleterre.
Because this period, I mean, I was at college in the middle 1960s.
J'étais à la fac au milieu des années 60.
And this was in the middle of this golden age of the cinema.
C'était en plein âge d'or du cinéma.
And now you talk to young people, it's very hard to explain to them.
Maintenant, vous parlez aux jeunes, c'est difficile de leur expliquer.
What these movies which you now think of as classics.
Ces sentiments qui nous animaient et qui sont aujourd'hui des classiques et qu'à l'époque c'était des films tout nouveau. Et il y a un film au cinéma qui s'appelle Alphaville, par exemple,
par Godard.
Et la semaine d'après, il y a un film qui s'appelle La Dolce Vita. Et la semaine d'après, il y a un film de Kurosawa. La semaine d'après, il y a un film de Ingmar Bergman. Et chaque semaine, il y a ces fantastiques films qui... Et j'ai toujours dit que la plus grande partie de mon éducation a été faite autant dans les cinémas que dans les bibliothèques. Et certains réalisateurs, comme Luis Buñuel, m'ont laissé une empreinte extrêmement forte.
Vous continuez d'aller beaucoup au cinéma aujourd'hui ?
I mean, cinema now is crap.
Le cinéma, c'est de la daube aujourd'hui.
You know, every like for example, I just before coming to France, I was
avant
at the
France,
I was at the Telluride Film Festival in
j'étais
Colorado.
J'étais dans le Colorado au festival du film Telluride, où l'on voit les meilleurs films de l'année.
That makes you feel for 5 seconds, it makes you feel
optimistic. Et pendant 5 secondes, ça vous rend optimiste.
Because there are still some great films.
Parce qu'il y a encore des bons films.
I mean, the film that I saw that really
le film que j'ai vu qui m'a vraiment étonné, c'est le nouveau film de Alfonso Cuarón.
Film called Roma.
Qui s'appelle Roma.
Roma is a neighborhood of Mexico City.
C'est un quartier de la ville de Mexico où il a grandi.
And the film is incredibly personal.
Et le film est terriblement personnel.
So beautiful.
I mean, tellement beau.
I strongly recommend.
Je vous le recommande fortement. Vous devrez tous le voir.
But you know, when you leave the world of the film festival.
Mais quand vous quittez ce monde du festival du film.
Superheroes, you know, that's all.
Tous les films, c'est des super-héros. C'est tout ce qu'il y a au cinéma.
And it seems like it's easier now to get $100 million to make a superhero movie.
Plus facile d'avoir un budget de 100 millions pour faire un film sur des super-héros que d'avoir 5 millions de dollars pour faire un film d'art. Donc je ne vais plus tellement au cinéma.
Mais quand vous étiez jeune homme, vous avez commencé, je crois, j'ai retrouvé ça dans mes notes, alors je ne sais plus la source, je crois, à écrire à 11 ans. Est-ce que c'est le cas ?
11 ans. Oh. But yeah, that's a silly little yes.
Ouais.
Well, I went to the movie of the Wizard of Oz.
Je suis allé voir le magicien d'Oz.
Came to India.
Il était projeté en Inde. Je devais avoir environ 12 ans quand je l'ai vu.
Anyway, it was an inspiration.
C'était une source d'inspiration.
And I went home and I wrote a story.
Je suis retourné à la maison. J'ai écrit un récit qui s'appelait Par-dessus.
Over the rainbow, parce que par-dessus l'arc-en-ciel, tout le monde la connaît.
It wasn't like in the movie.
Mais c'était pas comme
story,
dans le film. Dans mon récit, il y avait un garçon comme moi
walking down the street in Bombay,
qui
and come,
était dans la rue
across,
à Bombay.
Not the end of the rainbow, but the beginning.
Il ne voit pas
of
la fin de l'arc-en-ciel, mais trouve le début de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui s'élève à partir de l'endroit où il est. Et puis il y avait des marches. Donc il monte sur l'arc-en-ciel.
Various adventures which fortunately I've forgotten.
Il a vécu quelques aventures qu'heureusement j'ai oubliées.
And then my father, I wrote it, you know,
je l'ai écrit.
Longhand, and then my father said he got his secretary to type it in the office. You know.
Mon père a demandé à sa secrétaire de le taper à la machine.
He said,
au bureau.
If I let you keep this, you will lose it, so I will keep it.
Et il m'a dit, si je te le laisse, so tu vas le perdre. Donc je l'ai gardé. Je vais le garder. Donc lui l'a gardé, et c'est lui qui l'a perdu.
Which shows you that grown-ups can't be trusted.
Ce qui vous montre que les adultes, on ne peut jamais leur faire confiance.
Mais alors, né dans une ville obsédée par le cinéma, et vous avez déjà dit votre goût pour le cinéma, qu'est-ce qui vous a fait choisir la littérature plutôt que le cinéma?
You know, I've often asked myself this.
Je me suis souvent posé la question.
I mean, I'm a little bit involved with the cinema these days. And I've
un petit
one
peu impliqué dans le cinéma. J'ai écrit un scénario, impliqué dans les festivals de cinéma, un petit peu.
I think in the end, it's because
je pense que finalement, c'est parce que ma nature est plus solitaire que collaborative.
If you're a writer, the screenplay is
quand on est écrivain, vous savez, le scénario, ce n'est pas une œuvre d'art, c'est une étape vers quelque chose. Et comme ils le disent dans les films, si le film est bon, tout le monde en prend le crédit. Si le film est mauvais, c'est de la faute du scénariste.
Whereas when you sit at home and write a book, when you've written the book, that's the
work. Une fois que vous avez écrit le livre, ben c'est l'œuvre en elle-même.
That's why I think I wanted to
c'est la raison pour laquelle je voulais simplement faire mon propre travail, et puis c'est tout.
Mais avant d'écrire, est-ce qu'il faut beaucoup lire, Salman Rushdie?
Yeah, I read a lot.
Oui, j'ai beaucoup lu.
Yeah. I mean, I think a lot of writers
je pense à beaucoup
d'écrivains
qu'ils sont nés à partir de lecteurs.
Certainly for me,
et pour moi,
even from the time I was a child,
même de l'époque
où
j'étais enfant, je lisais beaucoup, j'ai lu beaucoup.
And my parents were intelligent in that they didn't try to make me read only good books.
Mes parents étaient intelligents. Ils ne me forçaient pas à lire simplement les bons livres.
So even if I was reading, you know,
même si je lisais
Batman comics,
des BD de Batman,
they kind of allowed it.
Ils me le permettaient.
And the result was that I got the habit
et le résultat,
reading,
c'est que j'ai pris l'habitude de lire.
And once you have
et ça, c'est
that
le but. Une fois que vous avez cette habitude,
well
elle vous sert tout au long de votre vie.
Mais est-ce que les livres que vous trouviez bons quand vous étiez jeune sont ceux que vous trouvez bons aujourd'hui?
Some of them.
Certains d'entre eux.
I mean, one of the books I remember being
un des livres
enchanted
dont je me souviens
well,
qui m'était enchanté, il y en a eu deux en fait.
The two Alice books.
C'est Alice de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles.
In Wonderland and Through the Looking Glass.
Et à travers
le miroir. When I was a boy.
Je les aimais quand j'étais enfant.
Them in a different way now,
et je les aime différemment aujourd'hui.
Because now I respond very strongly to the language.
Je réagis très fortement à la langue des livres,
so
aux mots.
I mean, of course, the images and the
bien sûr, les images, les fantasmes
but
sont
so
merveilleux.
Written,
mais c'est écrit de façon tellement belle. Pour cette raison-là, je pense qu'ils attirent tellement les adultes autant que les enfants.
And some of the other books are, I
mean, et d'autres
some
livres,
other books are garbage.
Bah, c'est de poubelle.
There were awful. There were all these books in those days.
Il y a tous ces livres de cette époque.
Going to English boarding schools.
Pour aller dans des pensionnats anglais.
And then, you know, then I went to an English boarding
et moi,
school.
Je suis allé dans un pensionnat anglais.
And I discovered it wasn't at all like
et j'ai
books.
Découvert que c'était pas du tout comme dans les livres.
And then, of course, the great the return
sûr,
of the boarding school book. Is Harry Potter.
En fait,
because what she
la récompense,
did was she took the English boarding school
c'était
story
Harry Potter, parce qu'elle a pris l'histoire de ses pensionnats
magic,
anglais et elle a ajouté la magie.
Then it works.
Et là, ça fonctionne.
If there had been witchcraft at my boarding school,
si
I would have been happy.
Il y avait eu de la magie dans les pensionnats anglais, j'aurais été très heureux.
Les livres qui restent, les livres sur lesquels vous revenez, j'ai lu dans certains entretiens que vous parlez de Ulysse, de James Joyce, vous parlez de Saul Bellow. Quels sont les livres vraiment qui sont les plus importants pour vous?
Je dois dire
tout d'abord que quand j'étais à l'université, je n'ai pas étudié la littérature. J'ai étudié l'histoire. Et pour moi, ça a été très important d'apprendre la méthode historique. Comment comprendre le monde?
And I think that's been very good
training for me. Et je crois que c'était une formation excellente pour moi. Et une grande partie de mon travail a à voir avec l'histoire. L'histoire ancienne, parfois l'histoire contemporaine. Mais c'était une partie très importante de ma formation.
Et
j'ai eu un prof d'histoire brillant qui m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié.
Il m'a dit,
n'écris jamais de l'histoire jusqu'à ce que tu peux entendre les gens parler.
Said, speak,
si tu ne les entends pas parler, donc tu ne les connais pas suffisamment. Et tu ne peux pas raconter l'histoire. C'est quelque chose de merveilleux pour apprendre l'écriture de l'histoire, mais c'est une leçon merveilleuse pour l'écriture de la fiction. Et donc même maintenant, quand j'essaye de créer des personnages, je me souviens de cela. Et je commence par me demander comment parle-t-il. Si vous tentez de créer un personnage et que vous dites, quelle est l'étendue de son vocabulaire ? Est-ce qu'il est bavard ou il ne dit pas beaucoup ? Est-ce qu'il utilise des gros mots ou pas ? Vous posez toutes ces questions sur la façon dont parle cette personne. Et quand vous le savez, alors vous savez qui est cette personne. Donc c'était très très utile. Et oui, bien sûr, j'ai lu beaucoup de littérature pendant mes loisirs. J'ai lu
Ulysses de James Joyce.
Ça a eu une grande influence sur moi. Kafka. Et je suis une des rares personnes qui a lu
À la recherche du temps perdu,
du début à la fin.
But not in French.
Mais pas en français.
Pour revenir sur cette idée d'entendre les personnages parler, Salman Rushdie, ça m'amène à une question qui revient dans ces masterclass de France Culture, c'est comment ça commence ? Comment ça commence un nouveau livre ? Est-ce que c'est une idée ? Est-ce que c'est un sujet ? Et vous avez raconté pour L'Enchanteresse de Florence, un livre paru il y a quelques années, que vous aviez envie d'écrire, enfin, vous pensiez à l'empereur Akbar et que vous pensiez aussi à Nicolas Machiavel. Voilà, c'était des idées, pas ensemble. Et puis vous dites qu'un jour ils se sont parlé.
Yes.
Vous êtes possédé quand vous commencez un livre ?
Now, in that case, it is true
dans ce
that,
cas,
that, I had been very interested
il est vrai
in
que j'étais
Mughal
très intéressé
Akbar.
Par l'empereur mogol Akbar.
In a completely different part of my head,
et dans une partie totalement différente de mon cerveau, j'étais intéressé par Machiavel.
It never occurred to me that
il ne m'est jamais apparu qu'ils aient quelque chose à voir l'un avec l'autre.
And then they did.
Et puis, ça s'est produit.
Il
n'est pas inhabituel pour moi que les choses me restent à l'esprit très longtemps, quand je ne comprends pas quoi faire avec eux.
And then slowly, it's like having pieces of a jigsaw puzzle.
C'est comme des pièces d'un grand puzzle.
And you don't know how they fit together.
On ne sait pas comment elles s'accordent l'une avec l'autre.
Or even if they come from the same jigsaw puzzle.
Ou même si elles viennent du même jeu, du même puzzle.
And then sometimes they begin to stick.
Et puis parfois, elles s'assemblent.
For example, in this new novel,
par exemple, dans le nouveau roman, La Maison Golden, une partie du roman est extrêmement contemporaine. Mais une autre partie, je l'avais à l'esprit pendant une dizaine d'années, une décennie. C'est en fait Nero Golden, le personnage principal. Parce que ce qui s'est passé, c'est que après les attaques terroristes à Bombay, c'est ma ville natale. Ça m'intéressait. Je voulais savoir exactement ce qui s'était passé, qui avait fait quoi. Et j'ai découvert, en parlant à des journalistes indiens, qu'il semblait qu'il y ait eu une collaboration entre les djihadistes qui venaient du Pakistan et la mafia locale. Je crois que c'était intéressant, parce que la mafia criminelle de Bombay aiment beaucoup faire partie de la bonne société. Ils mettent de l'argent dans les films. Ils aiment bien sortir avec des vedettes de cinéma. Et je me suis dit, c'est un triangle tellement bizarre où il y a
the extreme elite of the city.
La très haute élite
and,
de la
and then
société.
You have the gangsters.
Il y a les gangsters.
And then you have the jihadists.
Et les djihadistes.
And I thought if I can put a
et
character
je me suis dit,
in the middle of that triangle,
un personnage au centre de ce triangle.
That would be an interesting place to
start. Ça serait un endroit idéal
and,
pour
and
commencer.
That's where Nero was born.
Et c'est là que Nero,
point,
le héros, est né. Je ne connaissais rien de son histoire au départ. Je ne savais pas qu'il allait partir
but
pour New York. Mais je l'avais à l'esprit.
For, you know, eight and a half years or something.
Huit, huit
and then he
demi.
Finally
et
fitted into this
à la fin des fins, il est entré dans ce livre que je voulais écrire sur New York.
Mais quand vous dites il était dans ma tête, Salman Rushdie, c'est littéralement dans votre tête ou est-ce qu'il y a des carnets, vous prenez des notes, vous écrivez quelques phrases?
Yeah, I have, I mean, yes, I mean, I write things down.
Oui,
I,
oui, I, je note I mean, des choses.
When I have one of these fragments,
quand
you
j'ai
know,
quelques-uns
I mean, yes,
de ces fragments,
down,
oui, je les écris.
Just even in 100 words, you know,
même
just
en 100
just
mots,
to remember it.
Simplement pour m'en souvenir.
But mostly it's just in your head.
Mais pour la plupart, c'est simplement dans
I mean,
ma
I think
tête.
That's true about a novel.
Je crois que c'est vrai pour un roman, tout au long du processus d'écriture, peu importe le nombre de notes que vous pouvez prendre, vous pouvez prendre des centaines de pages de notes, mais finalement, ce réseau extrêmement complexe qui est un livre, vous devez l'avoir en tête. Donc il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. On a à peine la capacité de se préparer une tasse de café.
Because the book takes up
parce que le livre
all available space.
Prend tout l'espace disponible.
And then when you finish the book,
et quand vous terminez le livre,
a moment when the thing in your head disappears.
Où cela disparaît de votre tête. Ça disparaît.
And then you realize you can't work on it anymore.
Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus travailler sur ce thème. Parce que c'est comme si vous vouliez faire de la chirurgie du cerveau en ayant les yeux bandés. C'est dangereux.
Mais
la plus grande partie est dans le cerveau, dans l'esprit. C'est difficile pour les non-écrivains de vivre avec un écrivain pendant qu'il écrit.
Parce que
une telle partie de l'écrivain n'est pas présente. Il est dans sa tête. Il est dans cette toile d'araignée.
Mais dans votre cas, quand même, Salman Rushdie, si j'en crois les entretiens que vous avez pu donner sur cette question, le travail d'écriture, vous dites que c'est comme un boulot de bureau. C'est 9h à 17h. Il faut être là tous les jours, s'asseoir, et pas d'échappatoire. Il faut écrire. Mais le soir, il y a un Salman Rushdie qui a une vie sociale, qui peut sortir. Vous avez besoin de cet équilibre?
It works for me, yes, you know.
Mais pour moi, ça marche comme ça.
I mean, I do believe that,
je crois
that,
vraiment
that it's just, that it is just a job, that you
que c'est
like
simplement
a job,
un travail. Vous devez le faire comme un emploi.
And you don't allow yourself
vous ne vous permettez
the luxury
pas le luxe
of waiting for inspiration.
D'attendre l'inspiration.
No. Novelists who wait for inspiration
les romanciers
never finish books.
Qui attendent l'inspiration ne terminent jamais leur livre.
A book is too long.
Un livre, c'est trop long.
Writing a novel is, I
écrire
mean,
un roman,
if you're writing a poem,
peut-être
you can
si vous écrivez, si vous composez un poème, vous pouvez attendre l'inspiration.
But a novel is like
mais
the,
un roman,
the long distance race.
C'est comme you know, une course
novel is like the
de fond. C'est comme un marathon.
And the only way you
et
can
la seule
run
façon dont on peut courir un marathon, c'est d'attendre le kilomètre suivant. On découpe kilomètre par kilomètre et on ne pense pas à la fin. On
ne
pense pas à l'arrivée. L'arrivée est beaucoup trop loin pour pouvoir être imaginée. On pense aux trois pas suivants. Et aussi longtemps que vous avez fait quelques pas tous les jours, vous savez que la ligne d'arrivée va apparaître au bout. Je connais des amis qui sont des poètes, qui sont des scénaristes ou des auteurs de théâtre, dramaturges. Ils ne travaillent pas comme ça. Ils disent qu'il y a quelque chose au sujet d'une dramaturgie ou d'un scénario qui bénéficie d'avoir été créé pendant un moment très intense. On s'enferme pendant 15 jours et on revient avec un premier jet. Moi, je comprends ça. Parce qu'en fait, quand j'ai écrit le scénario pour le film de Midnight Story, c'était comme ça. Il y a tellement de théories sur la façon d'écrire des scénarios, trois actes et tout ça.
it's all nonsense.
Tout ça, c'est du bobard.
The only way I could think
la seule
of to
façon dont je puisse penser à écrire un scénario, c'est de fermer les yeux et d'avoir le film devant ses yeux,
les yeux fermés.
Et puis vous ouvrez les yeux et vous écrivez ce que vous avez vu.
And it is, it's much faster than,
c'est beaucoup plus rapide
writing fiction,
que d'écrire de la fiction.
But yeah, the fiction, it's just,
la fiction,
it has to
oui.
be just one foot after the other, one day after
un
the
pas
next.
Après l'autre,
but then
un
I
jour
do
après
find
l'autre.
At the end of a day's work,
mais je trouve que finalement, à la fin du jour,
that it actually helps me
ça m'aide
to get out of my head,
de sortir de mon esprit.
Go to a movie, go and
aller voir un film, dîner
like
avec
that,
des amis ou quelque chose du genre.
I find that it regenerates,
je trouve que ça me régénère.
Et
je peux me réveiller le lendemain matin et être frais et dispo pour aller au travail.
And I think I'm unusual.
Et je crois que je suis inhabituel.
Like
beaucoup d'écrivains ne sont pas comme moi.
Vous avez dit les horaires, Salman Rushdie, mais est-ce qu'il y a des lieux particuliers? Est-ce que c'est toujours le même endroit où vous écrivez? Est-ce que vous écoutez de la musique? Pas de musique?
No music.
Pas de musique.
No music. No, I can't listen to
non,
anything.
Non, je peux rien écouter.
And I shut the door. And
je ferme les portes.
People don't come in.
Les gens n'entrent pas.
You know, on pain of death.
Hein, sous peine de mort.
I say, you know, if the house is burning down,
dis, si la maison brûle,
come and tell me.
Oui, venez me le dire.
Otherwise,
sinon,
stay away.
Restez loin.
If the door is shut, don't come in.
Si la porte est fermée, n'entrez pas. Mes enfants l'ont appris à un âge très jeune. Si la porte est fermée,
don't open it.
Ne l'ouvrez pas.
I mean, as I say, it's terrible to live
comme je dis, c'est terrible de vivre avec un écrivain.
But I think I've developed over the years,
je crois que j'ai développé au cours des ans
a power of concentration,
un pouvoir de concentration
which I didn't have in the beginning,
que je n'avais pas
you know,
au début.
Is something that
c'est vraiment
happens,
quelque chose qui se produit
like a kind of fitness regime,
comme un régime de gymnastique. Vous voyez, on s'améliore avec le temps. Donc là, je suis très très bon à laisser le monde à l'extérieur. Je me concentre sur la page. Et finalement, cette concentration intense, c'est que c'est pénible, c'est fatigant. Et quand on en sort, à la fin de la journée, on est fatigué de façon totalement non naturelle.
Vous parlez de cette gymnastique, Salman Rushdie, c'est une question aussi qui revient souvent dans ces masterclass de France Culture, c'est est-ce qu'on progresse dans son art? Et vous dites qu'aujourd'hui, chaque jour, vous écrivez peut-être moins de mots, mais par contre, il y a moins à les corriger ensuite. Vous êtes plus près du but.
Yeah, I think some things do change. You know,
oui,
that,
je pense que ça change.
That I think when I was younger,
quand j'étais plus jeune,
I could write quite fluently. You
je
know,
pouvais
I could write several pages in a day.
Plusieurs pages par jour, comme un flux.
But they needed a lot of
mais il fallait
rethinking
beaucoup de réflexion.
To be discarded.
Et ça devait être beaucoup devait être jeté. Aujourd'hui, quand j'écris, disons, 500 mots, voilà, je suis content. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'être retravaillés, mais il y a moins à retravailler. C'est plus près de quelque chose de finalisé. Je me souviens cette histoire de Flaubert qui descendait de son bureau après une journée de travail. Il a dit « J'ai eu une bonne journée, j'ai écrit une phrase. » Et moi, je le comprends.
Et puis, il y a aussi la question, Salman Rushdie, quand on écrit comme vous au long cours, où le point d'arrivée est loin, c'est comment est-ce que vous décidez des grandes questions formelles pour un roman. Comment est-ce que vous trouvez la forme?
I don't know.
Je ne sais pas.
I mean, it's a question each time, you know, and
c'est à chaque fois la même question.
Sometimes, well, put it like this.
Disons-le
ainsi. When I was writing Midnight's Children,
quand j'écrivais Midnight Story,
I did not understand
au début, je ne comprenais pas que ça devait être une narration à la première personne. J'essayais de l'écrire comme un roman conventionnel, un récit, une narration à la troisième personne. J'ai écrit plusieurs pages, elles semblaient sans vie.
Et
je me suis dit, j'ai une bonne histoire à raconter, mais ça n'a pas l'air vivant sur la page. Et à un moment, je me suis dit, peut-être que je vais laisser mon personnage principal, parler directement, c'est l'image, et voir ce qui allait se produire. Je me suis toujours souvenu de ce jour comme étant le jour où je suis devenu écrivain. Parce que je l'ai laissé parler, et cette voix extraordinaire en est sortie. Avec une énergie colossale. J'ai écrit ce qui est aujourd'hui la première page des Enfants de minuit. J'ai regardé, j'étais enthousiaste parce qu'il était clair que c'était la meilleure page que j'ai jamais écrite dans ma vie, de loin. Et je me suis dit, voilà ce que je dois faire. Maintenant que je l'ai laissé parler, je ne peux plus le faire taire. Je dois le laisser parler et me tenir à sa veste et être entraîné par lui. Et de ce point de vue-là, la forme, je la découvre. Je la découvre par essai et erreur. Dans d'autres cas, j'étais beaucoup plus clair sur la forme.
Vous
parlez de l'Enchanteuse de Florence. Il y a un livre qui a ce problème, ça se produit dans deux endroits différents. La cour de Mogol en Inde et dans la Florence de la Renaissance, il y a une différence de temps, une trentaine, une quarantaine d'années entre les deux. Et j'étais inquiet parce que le roman va entre les deux, saute entre les deux, que ça serait embêtant pour le lecteur. Parce que quand on entre dans une histoire, soudain, boum, on traverse et on va de l'autre côté du monde. Et j'ai demandé à certains amis de lire
one of the later drafts and just to say, tell me if it's annoying, you know. And if it's annoying, tell me where it's annoying.
Un de ces textes, et de me dire si c'était ennuyeux, me dire où c'était ennuyeux. Et deux ou trois amis. Mais il faut avoir des amis auxquels on fait confiance, qui vont vous dire la vérité. Ils l'ont fait. Et j'ai vu en fait que je faisais trop de sauts. Et donc j'ai reformaté le livre en sections plus longues pour rester dans chaque endroit plus longtemps et pour raconter une histoire beaucoup plus satisfaisante dans chaque partie. Et là, ce n'était pas ennuyeux. Et bien, c'est un processus de découverte, en fin de compte.
Mais par rapport à cette histoire concernant les enfants de minuit, troisième personne, première personne, ce qui est étonnant aussi, c'est que Joseph Anton, qui raconte une partie de votre vie, c'est pas à la première personne, c'est à la troisième personne. C'est le processus inverse qui s'est passé.
Exactement, c'est le processus inverse.
Because if you're writing an autobiography,
parce que dans ce cas, si vous écrivez une autobiographie,
you automatically think it will be in the first person.
Automatiquement, vous pensez que ça sera à la première personne.
I began to write it in that way.
Et j'ai commencé à l'écrire ainsi.
And I found it very annoying.
J'ai trouvé ça très très ennuyeux.
I found the character, you know,
le personnage, moi, je.
I found him,
je l'ai trouvé
unbearable.
Insupportable.
All he could do was talk about himself.
Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de parler de lui.
I, me,
je,
I.
Moi, je.
I thought, shut up.
J'ai dit, mais ta gueule.
And then, because I wanted
et puis,
the book
parce que je voulais que le livre ait cet aspect de roman, ce qui m'a frappé, c'est que ce qui se produit dans une autobiographie, c'est que le personnage appelé « je » se sent différent pour le lecteur de « il » et « elle ». Et je me suis dit, si je n'utilise pas la première personne à ce moment-là, le personnage qui porte mon nom va se sentir au même niveau que tous les autres personnages. Et donc, je peux l'écrire comme un roman. Et j'ai essayé de le faire de cette façon-là. Et à partir du moment où je l'ai fait ainsi, je me suis dit, oui, ça me semble bon. Il n'y a rien dans le monde de la littérature qui n'ait pas été essayé précédemment. D'autres personnes l'ont fait.
The writer Christopher Isherwood,
Christopher Isherwood
a écrit Christopher and his friends,
un livre extraordinaire qui s'appelle Christopher et ses amis, qui est à la troisième personne. Il y a aussi des mémoires par Coetzee, qui est à la troisième personne. Il faut sentir ce qui est juste. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi.
Et à propos de forme encore, Salman Rushdie, il y a une chose que le public qui est présent ce soir dans ce studio de la radio constate bien, c'est votre humour. C'est pas la chose dont on parle le plus concernant votre travail, mais il y a toujours cette place de la comédie, alors de la comédie assez noire, de la comédie ça grince beaucoup, mais vous êtes à l'aise avec cette question de l'humour dans vos livres?
You know, when I started out writing,
quand j'ai commencé à écrire,
everybody used to say that my books were funny.
Tout le monde me disait que mes livres étaient drôles.
Midnight's Children, Shame, everybody
les enfants
said they
de minuit, on dit oh c'est très drôle.
And then, because of what
et puis en raison de ce qui s'est passé avec les versets sataniques,
some strange shift happened, that,
il y a eu un changement
that because
bizarre.
The thing that happened was not funny.
Parce que ce qui s'était passé, c'était pas drôle.
People decided that
les gens
also,
ont décidé à ce moment-là que moi j'étais pas drôle.
D'une
certaine manière, moi j'ai acquis les caractéristiques des attaques menées contre le livre.
And after that, people stopped saying I was funny.
Et après, les gens ont cessé de dire que j'étais drôle.
Until quite recently.
Jusqu'à assez récemment.
So, the last couple of books, people have
les deux
discovered
derniers
again
livres, les gens ont redécouvert
the ability to say that my books
la capacité
are funny
de dire que mes livres étaient drôles.
And that feels as if I've come out
et c'est
of
comme
a very long
si j'étais
tunnel,
sorti d'un tunnel
actually,
long et sombre. Parce que tous mes livres sont drôles,
including the satanic verses,
y compris les versets sataniques. C'est pas un livre de blagues,
mais
je crois qu'il y a beaucoup d'humour.
Parler
en tant que
lecteur,
je n'aime pas les livres qui n'ont pas de sens de l'humour. Je trouve ça très difficile à lire des livres sans sens de l'humour. C'est comme Zola, par exemple.
Alors justement, à propos de forme, encore, Salman Rushdie, qu'est-ce que vous pensez de ce concept de réalisme magique auquel on rattache toujours vos œuvres? Est-ce que ça vous paraît vraiment pertinent?
You know, what I think is this, that I think the particular phrase,
je pense ceci, cette phrase particulière, le réalisme magique,
is best used to describe
est
a particular
au mieux utilisé
of Latin American writers,
pour définir un groupe d'écrivains latino-américains à une certaine époque, depuis la fin des années 50, une vingtaine d'années, disons. On connaît les grands écrivains comme
Borges,
García Márquez,
Mario Vargas Llosa, Carlos
Fuentes, Alejo Carpenter, etc. Parce que je pense qu'eux avaient un projet conjoint. Ils essayaient d'utiliser une certaine forme de surréalisme pour décrire la réalité de l'Amérique latine. Et les surréalistes français étaient des gens qui avaient un projet conjoint. Mais le surréalisme et le réalisme magique, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y en a un qui s'est produit en France et l'autre en Amérique latine. Et ce que je pense de ce type d'écriture se produit dans toutes les littératures. Parfois. On pourrait dire de Kafka que c'est un réaliste magique. Un type se réveille un matin et découvre que c'est un insecte géant. C'est exactement ça, c'est du réalisme magique. On pourrait dire que les Russes, que Bulgakov était un réaliste magique. Le diable vient à Moscou et crée le désordre. Un des aides du diable, c'est un grand chat orange avec des pistolets dans la main. Et il tire très bien.
Another of the devil's sidekicks
un autre adjoint du diable est tellement mince que s'il se met de côté, il disparaît.
So again, see, it's this because I think in most cultures,
je crois que dans la plupart des cultures,
kind of
il y a une tradition de d'histoire folklorique et de fables.
Almost every culture in the world
dans toute culture du monde, il y a une tradition ancienne de fables et de contes de fées.
This kind of writing basically
et ce type d'écriture utilise une partie de cette méthodologie
but brings it into the present day world,
et l'amène dans le monde contemporain. C'est une des façons de le faire. Personnellement, je crois que je le fais à certaines fois et pas à d'autres.
Really
ça dépend véritablement du matériau.
Par contre, il y a une phrase de Primo Levi que vous citez dans La Maison Golden qui me semble vraiment adaptée à vous. C'est celle-ci. C'est là le résultat le plus immédiat de l'exil, du déracinement, la prédominance de l'irréel sur le réel. C'est beaucoup plus proche de vous, me semble-t-il, cela.
Well, I think one of the things about having the kind of life that I've had, you know, which has been
le fait d'avoir une vie comme la mienne qui peut être caractérisée par non pas une migration mais deux migrations, tout d'abord de l'Inde vers l'Angleterre, puis 20 ans après de l'Angleterre vers l'Amérique, c'est qu'on commence à apprendre que ce que les gens nomment réalité dépend de la, dans l'endroit d'où vous venez et dans quelle culture vous avez grandi. C'est très difficile d'établir une idée formelle de la réalité. Ce qui m'a frappé, c'est que ce qui se passe dans le monde moderne, souvent, est qu'il y a des narratifs conflictuels qui se battent pour le même espace. On pourrait dire au Moyen-Orient, par exemple, qu'il y a un narratif israélien et un narratif palestinien et qui n'ont absolument aucun terrain commun.
They're fighting for the same territory.
Bien, ils se battent pour le même territoire. Et cette idée de narratif en collision m'a été importante parce que j'ai grandi immédiatement après une longue période d'impérialisme. Et le narratif britannique de l'Empire est très différent de celui des pays colonisés. Je me souviens quand j'étais enfant à l'école à Bombay. Au départ, parce que moi je suis né deux mois avant l'indépendance de l'Inde, donc les textes étaient ceux, les manuels étaient ceux qui restaient de l'époque coloniale britannique. Et dans ces livres, les Britanniques étaient les héros et beaucoup d'Indiens qui leur résistaient étaient les méchants. Et puis à un certain moment, les manuels à l'école ont changé. Et soudain, les méchants sont devenus les héros et les héros sont devenus les méchants. C'est vraiment... Ça rend un enfant perplexe. Mais c'était une leçon pour moi. Même plus tard, quand j'étudiais l'histoire, on se rend compte que l'histoire est écrite par les vainqueurs.
L'histoire,
et c'est l'interview des vainqueurs. Les perdants n'écrivent jamais l'histoire. Ça vous donne une perspective. Toujours chercher une autre narration, un autre narratif. N'acceptez pas simplement le narratif qui vous est donné. Peut-être qu'il y a une autre façon, peut-être qu'il y a un autre angle qui contient plus de vérité.
Mais en l'occurrence, pour votre dernier livre en date, Salman Rushdie, La Maison Golden, vous avez essayé à relever un nouveau défi, parce que là, vous attaquez à l'histoire contemporaine, puisque le livre parcourt les 8 années de la présidence Obama. Bon, il y a cette histoire qui, évidemment, se passe en Inde, dont vous avez parlé tout à l'heure, dont on va dénouer les fils peu à peu. Mais c'est une grande ambition, mais c'est aussi un grand risque que d'écrire un livre qui doit être le témoin d'une époque. Qu'est-ce qui vous a conduit?
It's a scary thing to do.
Ah ouais, c'est effrayant. Because
you are told
parce qu'on vous
that
dit
you should not do it.
Que vous ne devriez pas le faire.
That what you need is to
ce
wait
dont vous avez
until
besoin,
you have
c'est d'attendre jusqu'à ce qu'on ait une objectivité,
so
une bonne perspective,
and that,
etc.
And that's a good warning,
et c'est vraiment quelque chose de bien
of writing about the day before yesterday,
un bon avertissement.
Is that if you do it badly,
c'est vraiment... Si vous écrivez quelque chose et que vous ne l'écrivez pas bien, ça n'aura aucune valeur, ça va devenir comme le journal de la veille. Simplement, ça pourra vous servir à envelopper le poisson, mais c'est tout. Mais si vous le faites bien, si vous avez de la chance, vous capturez un moment. Et je pense qu'il y a un passage merveilleux dans un des textes sur la tauromachie de Hemingway. Je ne me souviens plus lequel exactement. Il dit quelque chose comme le grand toréador fonctionne et travaille très très près du taureau. C'est très facile si le taureau est loin. C'est très facile de prétendre que vous êtes bon. Mais les grands toréadors, le taureau touche votre cuisse en passant. Et si vous ne faites pas très attention, vous vous faites encorner. Et cette histoire de travailler très très près du moment présent, mais ça sent exactement comme ça. de travailler très près du taureau. Le risque, c'est d'avoir la corne dans votre haine. Mais l'enthousiasme, c'est que si vous ne le faites pas, eh ben, c'est que ça a l'air bien. Mais moi, je n'aime pas du tout les courses de taureaux.
Ce n'est pas la peine de vous faire de nouveaux ennemis, Salman Rushdie. Dans la Maison Golden, vous faites une citation d'Isher Wood, le début d'Adieu à Berlin. Alors, je cite Isher Wood. « Je suis un appareil photo à l'objectif ouvert, totalement passif, qui enregistre et ne pense pas. » Fin de citation. Et le narrateur de la Maison Golden poursuit. « Mais c'était autrefois. Nous sommes aujourd'hui à l'époque des appareils intelligents qui réfléchissent par eux-mêmes. Peut-être suis-je l'un de ces appareils intelligents. J'enregistre, mais je ne reste pas complètement passif. Je pense, je modifie, peut-être même que j'invente. Être un imagineur, la bonne traduction française, après tout, c'est être très différent. C'est très différent d'être quelqu'un qui prend les choses au pied de la lettre. Le tableau de Van Gogh représentant une nuit étoilée ne ressemble pas à la photographie d'une nuit étoilée. C'est pourtant un formidable rendu d'une nuit étoilée. Disons simplement que je préfère la peinture à la photographie. Je suis un appareil photo qui peint. C'est votre définition de votre travail d'écrivain pour ce livre-là ?
Yeah, more or less.
Ouais, plus ou moins.
Yeah. I think, you know, the young man who is the filmmaker, who is the narrator of the novel,
qui est le réalisateur, is quite le narrateur du livre,
educated in the history of the cinema,
a été instruit dans l'histoire du cinéma.
One of the things in that passage,
et dans ce passage,
one of the film traditions he's talking
une des traditions
about
filmiques dont il parle,
what was called the kino eye,
c'est
ce qu'on
appelle le cinéma documentaire de Ziga Vertov, où l'idée est que la caméra regarde et la personne utilisant la caméra ne cherche pas à influencer. C'est simplement un enregistrement. La caméra, c'est l'œil qui regarde. Et lui dit qu'il ne pense pas ainsi. Il utilise la métaphore des caméras, des appareils photos qui peuvent véritablement interférer. Et lui, c'est comme un appareil photo, une caméra qui interfère.
Et
j'ai souvent pensé à la différence entre la peinture et la photographie comme façon de représenter. Il est vrai que si on va dans un champ par une nuit étoilée et qu'on prend une photo des étoiles, ça n'a rien à voir avec Van Gogh. Et pourtant, la peinture, le tableau de Van Gogh, c'est une extraordinaire peinture d'une nuit étoilée. Et c'est une forme qui était appelée l'expressionnisme. Et l'expressionnisme a des relations avec le réalisme magique. Et j'ai trouvé ça attirant. En peinture, tout autant qu'en littérature.
Pour revenir sur le moment où vous écrivez des livres, Salman Rushdie, vous dites que dans ces périodes, vous ne pouvez lire que de la poésie. Quelle poésie est-ce que vous lisez ?
I find that for a novelist,
pour un romancier, il est utile chaque jour
to read one or two poems.
De lire un ou deux poèmes.
Doesn't really matter what poems.
Peu importe quel poème.
I have a quite a lot of a shelf with a
j'ai
bookshelf
une étagère
with a lot of poetry in it.
Avec beaucoup de poésie.
And I just quite often just go and just
j'y vais, j'en prends un au hasard. Je l'ouvre au hasard aussi et je lis quelque chose. Parce qu'il faut que l'on vous rappelle de faire attention à la langue. La poésie vraiment fait extrêmement attention au langage. Je pense que c'est Neruda à qui on demandait poser une question sur un poème. Combien de temps ça lui avait pris de le composer ? Il a dit 20 minutes et 40 ans. Et je crois qu'il y a cette intensité-là dans la poésie. C'est une vie entière d'attention au langage. Même si la phrase est écrite rapidement, elle vient d'une méditation extrêmement longue et d'un processus de pensée extrêmement long sur le langage. Dans un roman, c'est difficile de le faire parce que un roman c'est tellement plus long. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut simplement dire que c'est dur à faire. J'utilise toujours un tout petit peu de poésie, simplement pour me remettre à l'esprit de ne pas être paresseux. Ne sois pas paresseux sur les phrases. Il faut se souvenir aussi que parfois dans un roman, on ne peut pas avoir chaque phrase poétique, sinon le roman, c'est comme manger une nourriture trop riche. Ça rend malade. Parfois, dans un roman, il doit y avoir une phrase qui dit « Il est rentré, il a fermé la porte. » On a besoin de cette phrase-là aussi. S'il n'y a pas de phrase telle que celle-là, le livre est vraiment indigeste. Donc parfois, la poésie est bonne, mais parfois, on a besoin de prose.
On va doucement vers la fin de cette masterclass France Culture, Salman Rushdie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un nouveau livre après le précédent? Vous vous posez parfois la question, vous imaginez ne plus écrire?
No, it's a good question.
C'est une bonne question.
But I don't know, it's like asking a carpenter why he makes
another. Demander à un menuisier pourquoi il a fait une nouvelle table.
It's what I do.
Mais c'est ce que je fais.
For me, writing is just my way of trying to understand.
C'est ma façon de comprendre le monde dans lequel je vis.
That process of understanding,
ce processus de compréhension ne se termine jamais parce que personne d'entre nous ne comprend véritablement tout et le monde change sans cesse. Je ne peux pas totalement imaginer de ne pas écrire.
When Philip Roth announced that
quand
he was going to
Philip
stop
Roth
writing,
a annoncé qu'il allait arrêter l'écriture,
I sort of didn't believe it.
Moi je ne l'ai pas cru,
en
quelque sorte. Je me suis dit, mais comment peut-il faire ça? Mais je sais que Philip a arrêté d'écrire et qu'il en était content. Il a mis un post-it sur son ordinateur et a dit, la bataille est terminée.
But on the other hand, you know, he wrote,
d'un autre côté,
like,
il a écrit 37
books,
37 livres.
I mean, I'm so far 18,
moi, jusqu'à présent, j'en suis à 18.
So I'm only halfway there.
Donc, je suis simplement au milieu du chemin.
Une autre chose aussi qui change peut-être avec le temps, c'est la sortie d'un livre, le moment où voilà, il devient un objet public que j'ai dans la main, que d'autres gens dans ce studio ont dans la main. Vous le vivez comment aujourd'hui, Salman Rushdie?
You know, truthfully,
en vérité, le moment de la publication devient de plus en plus difficile. J'aime le moment où on reçoit le premier livre, quand vous ouvrez le paquet, et voilà, il y a la première copie imprimée du livre. C'est toujours très émouvant. Une fois, je suis allé avec les éditeurs, à l'imprimerie, le jour où le livre sortait de presse. Et j'ai littéralement pris le premier livre, je l'ai sorti de la presse. Et il était chaud.
Donc
vous savez que la phrase commune, on dit, c'est chaud, sorti, chaud de la presse. Ben c'est vrai, c'est chaud. Parce que l'acte de reliure avec de la colle, vous savez, il y a de la chaleur qui est impliquée. Donc quand vous saisissez le premier livre, il est chaud au toucher. Je me dis, ça, c'est enthousiasmant. Si le livre pouvait rester chaud, pour qu'il fasse chaud dans la librairie, et que quand les gens prennent le livre soit vraiment chaud, c'est chaud, chaud. J'aime ce moment. Ça pourrait être un bon argument de vente. Et le moment exact de la publication, c'est vraiment, je me sens très très exposé, comme si je me déshabillais en public. Soudain, cette chose qui était dans votre possession intime, elle est dehors. Et tout le monde peut dire n'importe quoi à son sujet. Moi, je ne sais pas. De plus en plus, je veux le cacher. Plutôt que de faire une tournée lorsque le livre est publié, si on venait un an plus tard, lorsque les gens ont eu l'occasion de lire le livre, il y aurait des conversations plus intéressantes avec les gens, parce qu'ils l'auraient lu, ils auraient eu le temps d'y penser, et bon, ok, bon, parlons-en.
That's not how it happens.
C'est pas comme ça que ça se fait.
So I, I mean, look, I'm not really complaining because
je me plains pas vraiment parce que
it's wonderful.
C'est merveilleux pour moi. Writer, you know? Moi, je suis un écrivain chanceux. Depuis très tôt, depuis Les Enfants de Minuit, j'avais 33 ans. Depuis cette publication-là, et depuis, j'ai eu beaucoup de lecteurs dans beaucoup de langues. Et ce serait idiot de m'en plaindre. Et je dois dire, en fait, depuis que je suis, puisque je suis ici à Paris, qu'un des pays qui a toujours été extraordinairement gentil et bon pour mon œuvre, c'était la France. Depuis le tout début, tout a été publié, tout a été reçu avec beaucoup de sympathie. Et ça, on s'en souvient. Il y a certains pays où ce n'est pas tellement bon. Par exemple, je
ne
suis pas très bon au Japon. Et je ne sais pas pourquoi.
Pour finir, Salman Rushdie, cette masterclass avec vous, une question là aussi qui revient à chaque fois. Mais si les livres ne sont pas toujours chauds dans les librairies, il y a des livres qui vivent une longue vie. On a parlé plusieurs fois des Enfants de Minuit, c'est normal. Et une des choses, j'imagine, qui doit vous apporter une satisfaction, c'est que de jeunes gens qui n'étaient pas nés quand le livre est sorti le lisent aujourd'hui. En plus, il va y avoir une série Netflix, donc ça va faire encore plus de lecteurs. Du coup, ça m'amène à cette dernière question, qui est celle de la postérité. Quel rapport vous avez avec la postérité ?
It's what you hope for. You know,
c'est ce que l'on espère.
I remember, you know, my friend, the writer Martin Amis.
Martin Amis, écrivain, mon ami, avait cette belle phrase, le dit. Ce que vous espérez laisser derrière vous, c'est une étagère de livres.
You want to be able to say, like, from here to here, it's
de là à là, c'est moi.
You know, and you want, you hope that
the
books will transcend the moment in which they're written.
Transcender le moment où ils ont été écrits et resteront intéressants à d'autres moments. Et le test de la génération est extrêmement important. L'épreuve de la génération est importante. Et une des choses que j'aime et que j'ai noté quand je fais des lectures, vous regardez qui vient à vos lectures. Et je suis très heureux de voir que il y a beaucoup de jeunes lecteurs qui viennent. Parce que la crainte pour un écrivain vieillissant, c'est que les lecteurs vieillissent avec vous et que la génération suivante ne sera pas intéressée. Mais là, pour l'instant, tout va bien. Les Enfants de Minuit, c'est un livre très ancien, 81, 82 en France. Donc ça fait quoi? Ça fait 36 ans, 37 ans. Et le fait que des jeunes sentent que ça a encore quelque chose à leur dire, ça c'est un grand plaisir. Aucun d'entre nous ne vit suffisamment si ça passe l'épreuve de la postérité. Si dans 100 ans d'aujourd'hui, qui sait?
Mais
c'est ce que j'espérerais. Pour mes livres. Parce que la véritable récompense de littérature, ce n'est pas le Goncourt, le Booker Prize. La véritable récompense, c'est de durer. Parce que la seule raison de durer pour les livres, c'est que les gens les aiment.
Merci beaucoup, Salman Rushdie, pour cette masterclass avec vous.
C'était la masterclass de Salman Rushdie avec Arnaud Laporte. Attaché de production Nathalie Lempereur, coordination Arnaud Laporte, réalisation Clotilde Pivin.